Alors, du coup, pour tous les nouveaux du Discord et qui viennent donc du serveur de Genepix, donc vous êtes sur le Discord de l'Afterthinking. C'est un Discord communautaire qui s'est créé en marge de la chaîne qui s'appelle Thinkerview. Donc c'est communautaire, on a rien à voir avec du coup Thinkerview, hein. Et du coup, on est rentré en contact avec Genepix pour qu'ils viennent un peu nous présenter ce qu'ils ont fait au niveau de la chaîne. Et donc du coup, bah, je vais te laisser la parole. Enfin, je vais vous laisser la parole.
De la part de Féfé qui devait être là ce soir et puis petite obligation familiale. Voilà, il va essayer peut-être de nous rejoindre un petit peu plus tard dans la soirée, mais c'est pas gagné. Donc voilà, je le présenterai à sa place. Donc j'explique un petit peu le concept.
Ouais, bien sûr, vas-y, je t'en
Yes,
prie.
ok. Donc en fait, voilà, Genepix, c'est un concept qu'on a imaginé il y a à peu près un an. On est deux passionnés de code, d'informatique, et puis de hacking, donc ethical hacking. Quand je dis hacking, c'est vraiment au sens très large du terme, hein, c'est pas juste pirater pour pirater, c'est vraiment l'idée de détourner des outils, de détourner des technologies, de créer ce qu'on appelait des proof of concept, en fait, montrer que bah, certaines choses sont possibles. Et en fait, on a eu l'idée, donc comme pas mal de monde, je pense, pendant le confinement, de mettre un petit peu, de montrer ce qu'on faisait, et de montrer voilà certains proof of concept et certaines idées qu'on avait eues. Et donc du coup, on a monté une petite chaîne TikTok. Parce que voilà, c'est vrai que TikTok a explosé pendant le confinement et c'est vrai qu'on a un format qui prend vraiment pas mal sur TikTok. Donc là, on a, si je dis pas de bêtises, un peu plus de 160 000 abonnés, followers. Et donc en fait, on s'est fait connaître au tout début parce qu'on a codé un programme qui s'occupait d'automatiser complètement une chaîne YouTube. En fait, on s'est demandé, au départ, on part toujours d'une idée en général, on se dit, voilà, est-ce que ce serait possible de faire un programme qui fait du contenu YouTube à notre place, en fait. Donc, voilà, on a un petit peu mis les idées dans l'ordre, et puis on a au départ créé voilà, une chaîne YouTube qui s'occupe d'aller scraper du contenu. Donc, c'est beaucoup du contenu de Zap. Du contenu humour, vidéo buzz, etc. Donc, il s'occupe d'aller choper toutes les vidéos qui buzz un petit peu sur YouTube. Il les récupère, il les mélange, il les mixe, il met un générique, il met une fin. Et tous les jours, en fait, ça uploadait des vidéos sur YouTube, des nouvelles vidéos en automatique. Donc, nous, c'était un petit kiff quand on se levait le matin. Notre robot, il avait mis une nouvelle vidéo sur YouTube. Et bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait ça, évidemment, c'est pas notre contenu, donc on n'a évidemment pas fait ça pour le monétiser, on a fait ça juste pour dire, c'est quand même cool, quoi, on peut, avec quelques lignes de code, automatiser complètement une chaîne comme ça. Et donc, voilà, on n'a pas exploité le concept, on s'est dit, c'est quand même plus intéressant de le présenter aux gens et de montrer que c'est possible, plutôt que, voilà, juste d'avoir une chaîne YouTube qui tourne, quoi. Donc du coup voilà, on a présenté ça sur TikTok et c'est vrai que ça a bien marché, hein. La première vidéo, elle a fait je crois 70 ou 80 000 vues dans la soirée. Et donc voilà, après on a développé et puis on a codé d'autres petits programmes un petit peu dans cet esprit-là. On a Pour vous donner quelques exemples, on a codé un programme qui automatise complètement Bravo Loto, vous savez l'application de l'auto, au lieu de payer, on regarde des pubs en fait. Donc on s'est demandé si on pouvait faire un programme qui toute la journée joue à Bravo Loto et donc éventuellement même le démultiplier et puis pourquoi pas jouer des dizaines de milliers de grilles Bravo Loto. On se dit qu'en fait ça, à partir du moment où techniquement c'est possible, ça casse leur modèle économique. Donc voilà, c'est que peut-être qu'il y a un problème et c'est que peut-être que si c'est possible de le faire, il y en a qui le font. Donc voilà, évidemment, on l'exploite pas, c'était pas l'idée, hein. Tout de suite, on l'a publié, on a montré que c'était possible. Et voilà un petit peu l'esprit, voilà un petit peu l'idée de la chaîne. Donc à côté de ça, on fait aussi un petit peu d'actualité informatique. C'est pas forcément le format qu'on préfère parce qu'on trouve qu'il y en a qui le font déjà très bien. Mais voilà, quand il y a un truc qui nous plaît en termes de nouvelles technologies, en termes d'informatique, en termes de hacking, eh ben on en profite voilà pour faire une petite vidéo dessus et pour en parler un petit peu aux followers. Et à côté de ça, du coup, on a aussi un channel Discord avec donc une équipe qui le gère au top où voilà où l'idée c'est simplement de regrouper des jeunes passionnés d'informatique parce que forcément TikTok la cible elle est quand même assez jeune donc voilà ça permet de regrouper un petit peu les passionnés et puis aussi de mettre un cadre autour de ce que c'est le hacking, dans le sens où moi maintenant j'ai 31 ans et c'est vrai que quand j'ai commencé à m'y intéresser, je pense que j'ai pas fait forcément les choses dans le bon ordre, dans le bon sens. J'ai pu avoir potentiellement des problèmes d'ailleurs quand j'étais jeune à cause de ça, on pourrait éventuellement en reparler. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand je commençais à m'intéresser au hacking, j'avais 13-14 ans, on n'avait pas forcément les plateformes qui existent maintenant, Routemi, etc. C'était pas forcément aussi bienveillant, on n'avait pas forcément les modules pour s'entraîner, pour expérimenter, donc on était vite dans l'illégalité. Et maintenant, il y a tout ça, il y a plein de solutions pour apprendre le code, pour apprendre le hacking, l'informatique de manière éthique, correctement. Donc voilà, c'est aussi ça notre objectif derrière le projet Genepix, quoi. Objectif. Voilà. Ah, j'ai quand même présenté donc qui on est. Ça peut être intéressant. Donc on est, on va dire, deux associés. Alors, on ne parle pas associé au terme, enfin, dans le sens juridique, encore que, on est en train d'y penser, parce que c'est vrai que suite au buzz qu'on a pu faire, on a pas mal de demandes, on a pas mal de projets plus orientés professionnels en cours. Donc, Féfé, mon collègue, associé et ami hein, de très longue date, on se connaît depuis le collège. Féfé, c'est un passionné d'informatique. On a commencé l'informatique à peu près en même temps, aux alentours des 11-12 ans, je pense. On va dire que Féfé, dans son apprentissage de l'informatique, il a fait les choses correctement. C'est-à-dire que tout de suite, il s'est intéressé au code, il s'est intéressé à tout cet aspect-là. À 14 ans, il maîtrisait largement le PHP, il codait ses premiers forums, parce que nous, c'était l'époque des forums à l'époque. Hein. Il y avait ce qu'on appelait des boards. Donc voilà, il s'est très vite plongé là-dedans. Derrière, il a fait des études d'infographie 3D. Et maintenant, il est développeur chez Ubisoft. Et voilà, moi, la différence, c'est que je ne travaille pas dans l'informatique, pas officiel, pas que en tout cas. De plus en plus, parce que Genepix nous ouvre un petit peu des portes et on tend de plus en plus vers l'idée de professionnaliser tout ça. Mais voilà, moi j'ai fait, je dirais, les choses pas forcément dans le bon sens pour apprendre l'informatique, c'est-à-dire que je me suis d'abord intéressé au hacking, au côté peut-être un petit peu plus sombre de l'informatique. Et au final, c'est un peu plus tard, on va dire dans la vingtaine, que j'ai commencé à rattraper mes lacunes pour m'intéresser un peu plus à la construction, au code, au développement. Voilà, c'est vrai que c'est deux axes qui sont à la fois complémentaires, mais si, quand on s'intéresse au hacking, au final, c'est quand même bien plus intéressant de s'intéresser d'abord au développement, à la construction, parce que c'est ça qui nous permet de. Voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup plus progressé à partir du moment où je me suis intéressé au code, en fait. Hein. Je pense que c'est clairement ça. Donc voilà un petit peu qui on est. Et là maintenant, c'est vrai qu'on commence à réfléchir à monter une entreprise un petit peu spécialisée dans le digital, où on utiliserait un petit peu ce qu'on va appeler le growth hacking, hein, l'idée d'utiliser ces outils-là pour faire grossir légalement. Je le précise quand même, je le rappellerai quand même, parce que des fois, c'est vrai que ça peut être un petit peu borderline, même notre contenu TikTok, des fois, il peut être un petit peu borderline, mais on reste dans la légalité. On voit que les modos de TikTok ont un petit peu du mal à le comprendre des fois parce que c'est des sujets qui peuvent être un petit peu techniques. Mais voilà, on développe pas mal, on commence à travailler avec pas mal de boîtes pour, voilà, pour créer, on va dire, on est assez dans le concept en fait, hein, donc là, on développe, pareil, pour vous donner un exemple, on développe un social wall un petit peu nouvelle génération qui s'occupe d'aller choper un petit peu des stories, enfin un social wall Instagram, pardon, qui s'occupe d'aller choper des stories à droite à gauche. Pour faire gagner des lots, pour faire gagner des trucs, ça c'est voilà, c'est des choses qu'on met en place sur des événements, sur des voilà, tout ce qui touche à l'événementiel, tout ce qui touche à la fête, ça nous intéresse aussi beaucoup. Donc voilà, on essaie de mélanger un petit peu toutes nos connaissances, que ce soit en informatique, que ce soit dans l'événementiel, que ce soit dans la création d'entreprise, pour voilà, essayer de créer un mood assez cool autour de Genepix, quoi. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la présentation.
Ok, bah merci du coup. Du coup, t'as pas mal de questions qui arrivent.
Yes.
Alors, soit tu peux regarder dans le chat livre blanc, je sais pas si tu vois le chat livre blanc, soit tu vas
Je
dessus et tu
vais.
regardes. En général, elles sont notifiées par une petite question,
Ok.
une icône bleue. Sinon, je peux te les lire, c'est comme tu veux.
Comme ça t'arrange, comment t'as l'habitude de faire comment d'habitude?
On a les deux, on fait les
Ok.
deux. En tout cas, moi, du coup, je vais te poser ma question parce que. Vous t'as dit que vous receviez des demandes, c'est des demandes de qui à peu près? C'est quel genre de demande?
Alors, y a pas mal de choses différentes. Là, par exemple, on commence déjà à travailler. En fait, voilà, c'est vrai que Genepix, ça a créé une petite réputation, et c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui se sentent un peu plus en sécurité à l'idée de travailler avec une équipe qui, on va dire, qui peut être un peu connue sur une plateforme, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit TikTok, Insta, Facebook, etc. C'est un peu un argument d'autorité parce que c'est pas forcément un gage de qualité, mais voilà, c'est vrai que c'est cool parce que ça nous ouvre des portes. Là, pour vous donner quelques exemples, le week-end prochain, on travaille avec. Alors nous, on habite en Savoie, donc voilà, on est vachement dans le, on est vachement dans le ski, dans le sport, dans l'événementiel. Et là, on va travailler par exemple sur le plus grand slalom du monde. Je ne sais pas si vous voyez le slalom en ski. Hein. Bon, il y a une station qui s'appelle La Plaine qui organise le plus grand slalom du monde. Et donc, nous, on va intégrer quelques-unes de nos créations. Pour vous donner un exemple, on a créé complètement un photobooth. Vous savez, là, c'est ces grosses boîtes qui permettent de prendre des. Ouais, on n'est pas que dans le hacking, hein, je précise, hein, mais voilà, ces grosses boîtes qui permettent de prendre des photos, de les imprimer, et puis pour les entreprises de récupérer un petit peu du contenu client, quoi, des adresses mail, des numéros de téléphone, etc. Donc là, on place un photobooth de notre construction sur l'événement. On nous a mis un écran géant pour que bah, justement on puisse installer notre social wall un peu nouvelle génération. Donc ce social wall, j'ai fait une vidéo dessus déjà sur TikTok. Mais là, voilà, on l'a vachement amélioré. Disons que l'idée, ça va être de stimuler les réseaux sociaux, par exemple, de la boîte qui crée cet événement, quoi, voilà, pour booster un petit peu tout ça. C'est vrai que souvent, voilà, la boîte, elle crée un événement, elle met tout en place, elle ne va pas forcément se poser la question dans l'instant à comment est-ce qu'elle peut optimiser sa communication. Et ben nous, voilà, on va créer des petits outils comme ça pour que, bah, à la fin de la journée, il y ait peut-être 200 ou 300% de followers en plus que ce qu'il y aurait eu si on n'était pas intervenu. Voilà, ça, c'est vraiment dans l'idée du growth hacking. Après, sinon, on est en train aussi de voir avec une grosse marque de ski japonaise qui est en train de s'implanter en Europe. Donc là, l'idée, ce serait de leur développer complètement une plateforme européenne, une plateforme de vente, et puis pareil, hein, d'être dans la stimulation de leur communication, la stimulation de leur réseau. Voilà, un petit peu l'idée. Après, c'est vrai on est très généraliste dans l'informatique, donc on va s'intéresser autant au développement web, à la communication ou au développement d'applications de logiciels, quoi. Mais souvent, ça part d'une idée. Par exemple, on va se dire, OK, sur un événement, comment est-ce qu'on peut stimuler le compte Instagram de l'événement? Et puis après, on va chercher un petit peu les solutions autour de ça, quoi.
Ok. C'est des projets assez intéressants pour le coup. Fukasaku,
Merci.
vas-y, si tu veux poser ta question.
Ouais, bah du coup c'est rigolo parce que vous avez commencé le hacking à peu près en même temps que moi. Si vous avez 31 ans et Ouais. vous avez commencé à 13-14 ans, de la même génération. T'as quel âge, Et pareil, jeune bah, j'ai le même trentenaire? âge, j'ai 31 ans et
Yes.
j'ai commencé à peu près en même temps. Et je faisais des
Cool.
trucs un peu plus dark que du white hat, mais. Il y a des chances qu'on se soit croisé sur des boards de l'époque, hein, parce qu'au final, les plateformes françaises, il n'y en avait pas 50 000 non plus, donc. C'est pas impossible. Et du coup, j'ai une petite question. Après, vous pouvez ne pas répondre. Mais vous êtes présent sur la scène? Sur la scène, c'est-à-dire. La scène Wawa, Warhorse. C'est quoi? Alors, excuse-moi, je connais pas du tout. Ah, bah c'est une scène virtuelle où des groupes de Warhorse comment se dit? Disons, se font des battles de rapidité pour craquer des jeux, Ah, craquer des serveurs, craquer des choses comme ça.
d'accord. Alors non, 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 non. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on est, enfin, on est pas mal sorti. Bah, pour tout vous dire, de mon côté, moi, j'ai eu une grande période où j'ai dû me faire un petit peu oublier, bah, quand je suis devenu majeur, hein. Voilà, bon, il y a prescription, donc je peux en parler un petit peu, mais c'est vrai que, et c'est pour ça que je disais que dans un sens, fait, donc. Mon collègue, lui, il a vraiment fait les choses dans le bon sens, où voilà, pendant que moi, je m'attelais à pirater des trucs, lui, il apprenait à coder, il apprenait vraiment l'informatique au vrai sens, dans le bon sens, on va dire. Mais ouais, je me suis retrouvé assez jeune à avoir quelques petits soucis, parce que bah, piratage du lycée, piratage de l'académie de Grenoble. Voilà, ce genre de petites choses. Et à un moment donné, on t'attrape, on te dit, bon, bah maintenant, tu vas être majeur, calmos, quoi. Donc voilà, c'est après ça que. Donc finalement, il y a bien une dizaine d'années, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire un peu amende honorable, à dire, bon, bah, voilà, on va s'intéresser à l'informatique, d'une autre manière. Du coup, question de l'ours, quelle est votre définition du hacking et pourquoi c'est important, le hacking?
Ah, le hacking, pour moi, le hacking, c'est vraiment l'idée de détourner des outils de leur utilité première. En fait, pour tout vous dire, à l'origine, moi, je suis magicien. Bon, c'est un de mes métiers. J'ai plusieurs métiers différents, hein. Faut le savoir, mais un de mes métiers, c'est magicien mentaliste. Et pour moi, la magie, le mentalisme, c'est un petit peu du hacking mental. C'est-à-dire qu'on a une idée et on va réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour arriver au bout de cette idée, en fait. Alors, un mentaliste, par exemple, il va se dire, je prends un exemple hyper bateau, mais il va se dire, je dois deviner la carte à laquelle quelqu'un pense. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour qu'à la fois ce soit le plus simple possible, le plus efficace possible, que ça marche le plus souvent possible, voire même à tous les coups. Et pour moi, le hacking, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est pas uniquement comprendre comment fonctionne, ce qu'on essaie d'expliquer des fois à des plus jeunes, mais c'est pas comprendre comment fonctionne Kali Linux, c'est pas comprendre ce que c'est un exploit, c'est pas bah, ça en fait partie, ça peut être utile, mais au final, bah, de mon expérience. On va dire, les plus gros coups que j'ai pu faire quand j'étais bien plus jeune, c'était vachement détaché de tout ça. Il y a un livre qui m'a vachement inspiré, je pense qu'il y en a qui doivent connaître dans le chat, c'est un livre de Kevin Mitnick. Donc, Kevin Mitnick, c'était un peu mon héros, hein. Voilà, c'est le mec qui a un peu piraté l'armée américaine à l'époque et qui utilisait vachement une méthode bien connue qui s'appelle le social engineering. Et il arrivait à accéder à peu près à n'importe quoi juste en passant quelques coups de fil, juste en embrouillant un petit peu les gens. Donc c'était vraiment un mélange de, pour moi, c'était vraiment un mélange de magie, de communication. Et au fur et à mesure, tu arrives à élever tes privilèges, même avec ça, et à récupérer de plus en plus d'informations. Donc voilà, pour moi, c'est ça le hacking, quoi. C'est vraiment être hyper créatif, être hyper imaginatif pour arriver à son objectif. Quand on se dit, par exemple, voilà, on veut que cette entreprise, voilà, merci la petite photo de Kevin Mitnick, Donc ce livre, il s'appelle, si je dis pas de bêtises, c'est L'art de l'intrusion. Franchement, c'est pour moi, c'est une des grosses références. C'est un livre qui m'a beaucoup inspiré, même si ça m'a amené à faire pas mal de conneries, je vous avoue. Mais voilà, c'est quand une entreprise nous dit voilà, nous on a besoin de booster nos followers. Il y a deux manières de faire. Il y a la méthode bien moche, c'est leur expliquer qu'on peut créer des faux comptes et machin et trucs. Donc ça, c'est, je pense que c'est la pire des conneries parce qu'à un moment donné, on le paye. Ou alors, on se dit comment est-ce qu'on peut faire en sorte que toutes les personnes qui sont à un endroit ou toutes les personnes qui rentrent dans un magasin, comment on optimise les chances pour que cette personne, elle vienne follow le compte, elle vienne s'y intéresser. Bah pour moi, c'est une forme de hacking, en fait, ça aussi, quoi. Donc voilà, je dissocie vachement le piratage du hacking. On peut appeler ça. En fait, je sors même un petit peu du côté hacking white hat, black hat, etc. Dans le sens où, bah, de toute façon, le black hat de notre côté, c'est proscrit depuis déjà bien longtemps. Et en réalité, même quand j'étais plus jeune, j'ai jamais rien cassé, rien détruit, quoi. C'est juste que, voilà, c'est des intrusions qui sont illégales. Mais mon but, c'était juste de dire, ok, c'est possible, en fait. On pouvait le faire. Voilà un petit peu l'idée.
Du coup, je vais te poser une question un peu dans la même dans la même dans le même domaine. Tout à l'heure, tu avais dit que les modérateurs de TikTok ne comprenaient pas toujours ce que vous faisiez. Vous avez déjà eu des problèmes avec eux ou pas?
Ouais. En
De
fait,
quel genre?
TikTok, il nous emmerde un petit peu. Alors, pour vous donner un exemple, on a, alors là, c'est vrai que par exemple, on met moins de contenu qu'avant sur TikTok, en ce moment en tout cas, hein, je pense que voilà, ça va revenir. Mais en fait, plutôt que d'essayer de mettre du contenu, on n'est pas forcément dans la course aux followers, hein, plutôt que de mettre du contenu actu informatique, etc., on se dit, nous, on veut vraiment présenter nos projets, on veut présenter les trucs qu'on a codés, on veut présenter les idées qu'on a eues. Et par exemple, il y a quelques semaines, on s'est amusé à coder donc avec Fefe un robot de trading sur la crypto. En gros, on s'arrangeait pour récupérer des signaux intéressants sur différentes altcoins. Et puis on a fait un robot connecté avec l'API de Binance qui s'occupait de poser les positions, de les revendre, etc. Donc le but concrètement, c'était de gagner un petit peu d'argent aux alentours de 200 euros pour pouvoir acheter enfin pour pouvoir faire des t-shirts Genepix et puis les offrir un petit peu aux gens qui nous ont aidés dans le projet. Et donc
Vous avez
voilà, on
gagné
fait une
combien?
première. On a gagné 200 euros avec
Ah,
un investissement, je crois, de 2000 ou 2100, un truc comme ça. Donc je crois on a fait un plus 18% sur une période cool en plus où le Bitcoin il prenait une bonne claque. Donc voilà, ça c'était assez cool comme projet. Typiquement, d'une certaine manière, pour moi, c'est une forme de hacking, quoi, dans le sens où voilà, on détourne. Même si évidemment, il y a les outils pour, hein, il y a l'API de Binance, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse le faire, donc on le fait. Mais voilà, du coup, ce qu'on a fait, c'est que ben, on a fait une vidéo de présentation un petit peu technique sur comment utiliser l'API de Binance, etc. Et en fait, on s'est fait strike la vidéo. Simplement parce que je pense que les modos de TikTok tombent sur la vidéo, la regardent, comprennent pas forcément grand-chose, ils se disent ouh là là, ça parle un peu crypto, ça parle un petit peu argent, hop, on vire ça, ça a l'air un petit peu chelou. Alors qu'il y avait absolument rien d'illégal quand on utilisait des outils qui sont complètement legit. Et ça, c'est arrivé, je pense, 4-5 fois. Je parlais là tout à l'heure avant qu'on commence d'un petit concours qu'on avait voulu faire avec les modos du Discord, où on a fait un concours de création de malware. Alors en soi, on comprend bien, voilà, un malware, faut pas juste le faire, le dropper comme ça, le balancer dans tous les sens, mais c'est intéressant des fois de le coder, comprendre comment c'est fait, et de l'installer sur une machine virtuelle pour voir comment il se comporte et tout. Et c'est ce qu'on voulait faire, et en fait, bah, ça passe pas, quoi. Voilà. TikTok refuse qu'on mette ce genre de contenu. Donc Instagram est beaucoup plus souple, donc c'est vrai qu'on commence progressivement à déplacer notre contenu sur Instagram, mais au final on voit là sur Instagram on est, je crois on est même pas à 8 000 followers, quand sur TikTok on est à 162 000 parce que bah c'est pas le même algorithme, c'est pas la même manière de push les vidéos, etc. Donc voilà, à la fois TikTok ça marche vachement bien, mais à la fois ils sont vachement rigides sur le contenu quand ils le comprennent pas ou quand c'est pas vraiment dans le côté trend de TikTok, voilà, dans les habitudes en fait.
Merci, j'avais une question moi aussi. Alors,
Yes.
tu disais dans le vocal que ce que vous disiez, tout ce que vous disiez désormais était légal. Tu disais, enfin, vous dites, je crois, en description de votre chaîne TikTok, et moi si je me trompe, que vous êtes vous disiez hacker éthique.
Ouais.
Est-ce que ce que vous faites est toujours éthique, entre guillemets, en tout cas pour vous, et est-ce que c'est toujours légal? Parce que parfois, éthique et légal,
C'est bien
ça peut
sûr,
aller
oui,
ailleurs.
ça peut être. Alors, je pense que tout ce qu'on fait est légal. Je réfléchis là. Hein. Je réfléchis. Et puis combien même on ferait un truc illégal, on n'est pas fou, on le mettrait évidemment pas sur TikTok. L'entre-deux qu'il y a pu avoir, je pense que le seul truc un peu limite qu'on a pu faire et qu'on a présenté, c'est notre robot qui s'occupait de jouer tout seul à Bravo Loto. Voilà, je pense que c'est peut-être un petit peu limite. D'ailleurs, on s'est fait évidemment strike la vidéo, mais bon, ça je râle pas. Je comprends que ça puisse être, je comprends que ça puisse être un petit peu juste. Mais par contre, voilà, c'est vrai que dans l'idée de faire du proof of concept, de montrer que c'est possible, en soi, c'est pas illégal. C'est même généralement comme ça qu'on fait dans le milieu de la sécurité informatique, quoi. Hein, on va coder un exploit, on va coder un programme et on va montrer que, bah voilà, ça, on peut le faire. Ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser, ça ne veut pas dire qu'on va l'exploiter, ça ne veut pas dire qu'on va expliquer comment on l'exploite. Par contre, on montre que c'est possible.
Et du coup, la FDJ, elle vous a contacté pour en discuter justement ou pas du tout?
Alors non, parce que c'est pas la, justement c'est pas la FDJ, c'est comment elle s'appelle cette boîte? C'est Giphy. Voilà, c'est Giphy qui a fait ça. D'ailleurs, ils sont en guerre avec la FDJ. Parce que vu que c'est pas financier, en fait, vu qu'on n'achète pas les grilles de loto, et ben du coup, c'est pas réglementé par la FDJ. Sauf que vu que c'est un très gros truc, vu que c'est une très grosse plateforme qui en fait sert uniquement à promouvoir Giphy, hein, concrètement, gagner de l'argent sur ce truc-là, il n'y a quasiment aucune chance. Par contre, vous allez gagner des bons de réduction de 5% pour les produits Giphy, hein. C'est plus ça l'idée. Malgré tout, ils font une très bonne communication. Je pense qu'ils ont injecté énormément d'argent dans leur com, donc ça marche vraiment très très bien, ce truc-là. Mais voilà, pour moi, c'est assez représentatif du fait que ce qu'ils veulent, c'est pas avoir une belle plateforme de loto, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est faire de la pub. C'est faire de la pub pour Jiffy. Donc ils sont pas forcément posés la question de est-ce que c'est sécurisé? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut tricher avec ce truc-là? Eh ben si, bien sûr qu'on peut.
Question de Scared qui m'a pas répondu. Est-ce que vous avez des gros projets?
Là, on va dire que notre plus gros projet à court terme, c'est cette plateforme européenne de marque de ski japonaise. Donc ça, c'est quand même des projets assez importants dans le sens où on va devoir tout gérer de A à Z, hein, que ce soit la communication, le développement, le shop, les produits, etc. Après, sinon, vraiment alors, de toute façon, tout ça va se faire suivre les vidéos. Ce qu'on veut, c'est développer nos projets, puis après en faire des vidéos pour montrer un petit peu comment ça se passe. Après, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées en tête. Je vous cache pas que voilà, si j'avais si tout mon temps pour ça, et pareil pour Féfé, hein, s'il avait vraiment du temps pour faire ça, on y passerait. Voilà. En fait, on crée des projets perso depuis qu'on a 15 ans. Et par exemple, là, c'est vrai qu'on aimerait bien mettre en place, par exemple, des colonies de vacances vraiment axées hacking éthique informatique. C'est vraiment un projet auquel on réfléchit depuis bien 2 ans. On a déjà pas mal de pistes, on a déjà pas mal d'idées, mais voilà, ça fait partie des idées qu'on a, quoi.
Et du coup, pour gérer vos contrats avec des entreprises comme ça, vous avez créé l'entreprise Genepix à côté, on parle de vos vraies activités ou...
Alors pour le moment, on n'a pas créé l'entreprise parce qu'en fait, on est tous les deux travailleurs indépendants. Donc voilà, si on va dire que ça après, c'est du juridique dans le sens où Genepix, c'est une marque, mais pour avoir une marque, on n'est pas obligé d'avoir une entreprise, hein, si vous voulez. Donc si effectivement on part à 100% là-dedans, on va monter notre entreprise, mais c'est vrai qu'avec des statuts de travailleurs indépendants, on peut complètement faire le taf tout à fait légalement, quoi.
Bébé, tu veux poser ta question ou pas? coup, je la pose. Alors, concernant le hacking, as-tu regardé les Thinkerview de Victor Poucheret et Brice Ogras
Ah non.
sur le hacking au XXIe siècle, Zack et Doomer?
D'ailleurs, je vais le noter tout de suite.
C'était une interview très intéressante qui dure
Ouais.
2h40, pour le
Tu
coup, alors que.
peux me redonner les noms?
Bien sûr, je t'envoie la vidéo sur le chat,
Ah
comme
bah
ça
parfait,
sera
au
plus
top.
simple.
Super.
Xanaz, par rapport à ce que tu viens de dire, si l'État te proposait de t'embaucher pour travailler sur la sécurité et la création de systèmes de sécurité maison et indépendants, accepterais-tu?
Alors, je pense pas, simplement parce que je suis pas sûr forcément d'avoir les compétences pour. Ça, c'est vraiment des spécialisations, des choses qui sont très très précises. Je pense que parmi nos valeurs avec Fefe, il y a l'idée que il y a des sujets qui nécessitent l'intervention de spécialistes. Nous, on n'est pas des spécialistes, on est des généralistes en fait dans l'informatique. Je pense que ce qui peut nous faire sortir du lot aux yeux d'une société, ça va être plus nos idées, notre capacité à la sortir et à la développer. Quand on est vraiment dans la spécialisation pure et dure de la sécurité informatique, là, voilà, je pense qu'il y a des personnes qui ont des doctorats en informatique, en sécurité, et je pense que c'est plus vers ces personnes qu'il faut se diriger. Moi, je suis un pur autodidacte de l'informatique, ce qui forcément va amener à des lacunes. Alors, pas forcément sur le plan du développement et du code, parce que quand on a une idée, on est capable d'aller au bout et de la développer, mais par exemple sur la capacité à travailler en équipe. Moi, c'est vrai que on me met dans une entreprise comme, voilà, par exemple, mon Féfé, lui, il bosse en entreprise, il bosse pour Ubisoft, donc il sait travailler en équipe, il a fait des études là-dedans. Moi, absolument pas. Je pense que si on me met au milieu de tout ça, je ne serais pas forcément hyper à l'aise, quoi. Pour moi, l'informatique, c'était à la base quelque chose d'assez solitaire. Et je pense que ça, c'est des projets qui nécessitent vraiment une spécialisation, quoi. Quand on parle du gouvernement, après, évidemment, si c'est une entreprise, un shop, machin, qui veut optimiser la sécurité, son fonctionnement, là, évidemment, je pense qu'on a les ressources, on a les compétences pour. On s'assurera d'ailleurs d'avoir les compétences pour si jamais on a une demande comme ça. Mais quand ça touche au gouvernement, là, c'est une autre histoire.
Question de Prince de Lu. Vous aimeriez à terme vous détacher de TikTok? Une politique trop stricte qui n'est pas forcément adaptée ne vous gênera pas dans le développement de vos projets? Tu as un peu
Bah.
répondu, je pense.
Ouais, bien sûr, on aimerait, mais c'est tout le paradoxe, c'est qu'à la fois c'est là que ça prend le plus. C'est vrai que des fois on sort des vidéos, en 2 jours on a 200 000 vues, on a 5 6 000 followers en plus, donc du coup à la fois c'est un peu compliqué de s'en détacher, et du coup par contre on commence à faire doublon, c'est-à-dire que le contenu on le met aussi sur Instagram. On sent que ça commence à prendre pas mal, bon mine de rien. 8 000 followers, c'est pas dégueulasse. Mais je pense que ça, c'est le côté nouveau réseau. C'est vrai que un nouveau réseau social, il va vachement optimiser sa capacité d'acquisition, parce que bah quand on prend des abonnés, voilà, ça stimule notre dopamine, ça nous donne envie de continuer à faire du contenu, ça nous donne envie de rester. Donc du coup, je pense que TikTok, ils sont vachement là-dedans en ce moment parce que c'est les petits derniers. Faut voir comment ça évolue. Là, on sent que TikTok, ils essayent aussi de prendre un petit peu une part de marché de YouTube. Ils commencent à mettre en place des vidéos de, je crois, plus de 10 minutes, etc. Donc, on sait tellement pas comment ça va évoluer tout ça. En vrai, on en est à un point là dans le monde. Je sais même pas si TikTok, dans 6 mois, ce sera encore légal en France. Et on sait pas vraiment ce qui se passe. Donc, on fait un petit peu comme ça vient pour le moment. Et on verra.
Question de Prali. Après, de nos jours, y a-t-il vraiment besoin d'un diplôme spécialisé, sachant que le monde professionnel ne demande que ça?
Alors,
Parce que est-ce que t'as pas une légitimité justement avec vos projets, tout ça? Enfin, vous avez peut-être plus d'expertise que des personnes diplômées pour le coup.
si, bah alors pour l'anecdote, moi je vous dis, j'ai pas fait d'études, j'ai passé un bac, et en fait, bon, c'est vrai que le système scolaire, c'était vraiment pas mon délire. J'arrivais pas, enfin, c'est pas que j'arrivais pas, c'est que ça me plaisait pas, et j'ai jamais réussi à faire des choses qui m'intéressent pas. Donc c'est pour ça que j'ai jamais travaillé en entreprise, j'ai jamais été salarié. Quand j'ai quitté le lycée, j'ai tout de suite monté des projets, j'ai tout de suite monté mon statut de travailleur indépendant, je suis tout de suite parti sur des trucs qui me plaisaient, quoi. Et quand on a eu 19 ans, avec Féfé, on a monté notre première entreprise, on a trouvé des investisseurs privés, etc. Et on a monté à l'époque un site internet qui s'appelait Drive and Party, où en gros on a monté un site de covoiturage pour boîtes de nuit. Et ça a été plutôt un bon carton. C'est vrai qu'on était assez. On était assez contents de nous. L'idée, c'était voilà quoi, de mettre en place une plateforme qui permet. On était très clubbeurs, on était très très fêtes, hein, forcément. Et du coup, on s'est rendu compte que y avait un besoin là-dessus, quoi. Moi, je veux aller en boîte de nuit, j'en sais rien, à Annecy. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui part de vers là où je suis et qui peut m'emmener, qui peut me ramener en toute sécurité, sans que voilà, faire en sorte que le pilote ne picole pas, etc. Et c'est un projet qui a vachement bien pris. On était vachement aidés. On a eu des partenariats à l'époque avec Énergie, avec Fun Radio. On a gagné des trophées intéressants, ce qu'on appelle les trophées de Savoie. Vous savez, chaque région a un petit peu ces trophées qui récompensent les jeunes entrepreneurs. Bon, on a eu l'occasion de gagner les trophées de Savoie avec ce projet. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, on se retrouvait à faire des conférences devant des gens qui étaient plus vieux que nous et qui étaient en plein dans leurs études, alors que nous, ben, on apprenait vraiment les choses sur le tas, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'à un moment donné, on a senti quand même la lacune arriver, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément à cette époque-là les capacités nécessaires pour gérer correctement une structure, une entreprise, pour intégrer des pour un, intégrer peut-être des enfin des comment dire pour intégrer des investisseurs dans la société, on ne savait pas forcément comment faire, on n'était pas forcément bien conseillé. Donc finalement, c'est dans ce sens-là où les études, elles vont être utiles, quoi. Forcément, je vais pas vous mentir, on peut faire plein de choses sans les études, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on pourra se retrouver un petit peu limité sur certains sujets. Après, ben voilà, faut apprendre sur le tas, faut s'y coller, faut tryharder certains sujets, et puis ça finit par faire. Maintenant, ces lacunes-là, on les a de moins en moins, mais si ce projet, on devait le refaire maintenant, on le referait pas du tout de la même manière, ça c'est clair.
Question de Medma, n'est-ce pas trop fatigant de travailler et en même temps essayer de rester à la une niveau nouvelles technologies, coding, API, etc.?
Ouais, c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est des domaines où bah il faut quand même pouvoir il faut se mettre tout le temps à jour en fait. Et c'est vrai que moi dans ma vie j'ai pu faire pas mal de pauses en informatique parce que j'avais du travail, parce que j'avais d'autres choses, d'autres obligations à côté. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je m'y remettais, des fois j'avais un peu l'impression de reprendre pas mal de domaines à zéro. Et c'est vrai que maintenant j'ai un petit peu organisé ma vie autour de ça, donc j'ai la chance d'être entrepreneur et indépendant, donc de pouvoir gérer mon temps comme j'en ai envie. Et donc du coup c'est vrai que ça me libère du temps pour apprendre, même pour faire des formations, parce qu'au final, même pendant les confinements, hein, j'ai fait des formations de code, de développement, machin, pour optimiser un petit peu mes connaissances. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément intuitives. Et je pense que quand on essaie d'atteindre un certain niveau sur certains sujets, l'autodidactisme, il peut aussi avoir un petit peu ses limites quand même, quoi. Donc voilà. Après, ouais, c'est une passion, hein, de toute façon.
Une petite question de Mathéo. Ils ont fait la promotion de Rootme, site de hacking, point d'interrogation.
Yes.
En ligne, il disait qu'avoir un bon score sur cette plateforme permettait, dans une certaine mesure, de trouver des emplois, il me semble.
Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, à partir du moment où on fait ses preuves, une entreprise peut être intéressée. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de startups, d'entreprises qui sont fondées par on va dire, des jeunes trentenaires. Ils sont pas forcément attachés au diplôme, ils sont plus attachés aux compétences. Quelqu'un qui a montré qu'il est capable de résoudre la plupart des énigmes de Rootme, on se dit, OK, lui, clairement, il est compétent, il sait ce qu'il fait, il sait de quoi il parle, donc il pourra nous aider. Et je pense que c'est un petit peu ce qui se passe avec notre chaîne aussi, quoi. Forcément qu'il y a certaines entreprises qui disent, ah bah oui, OK, voilà, ils ont l'air de savoir de quoi ils parlent, donc potentiellement ils sont fiables. Alors c'est vrai, mais c'est aussi une forme, c'est aussi, voilà, si on veut être tout à fait rationnel, ça peut aussi être un argument d'autorité, c'est-à-dire que ça reste du spectacle. La manière avec laquelle on présente le contenu sur TikTok, c'est aussi du show, c'est aussi du spectacle. On oriente, par exemple, on commence vachement nos vidéos en disant, bah voilà, on a pris 5 minutes pour coder un robot de trading, on a pris 5 minutes pour coder un robot qui gère tout seul une chaîne YouTube. Évidemment qu'on va pas montrer les monstres galères qu'on a pu avoir derrière, les nuits blanches qu'on a passées à essayer de résoudre un bug dans un bout de code. Donc voilà, c'est. Je pense que la manière de présenter les choses, elle n'est pas forcément représentative du niveau de compétence. Et vu qu'on a quand même des tendances, je pense, un peu sceptiques sur les choses et que l'argument d'autorité, ça fait partie, moi personnellement en tout cas, des choses qui me gonflent beaucoup en ce moment parce qu'on en voit beaucoup sur Internet, notamment avec la période Covid, etc. Que voilà, faut quand même en tenir compte et faut se dire, il n'y a pas que ça, quoi. Le diplôme en soi, d'une certaine manière, c'est pareil parce qu'il y a des personnes qui vont être. Il y a des personnes qui vont avoir un diplôme et qui ne seront pas forcément ultra compétentes. Mais normalement, c'est censé être un gage de sérieux et c'est censé représenter quand même un certain niveau. Évidemment qu'on ne va pas trouver un docteur en informatique qui n'y comprend rien. A priori, ça n'existe pas, quoi.
Question de l'ours. Est-ce que vous avez un point de vue sur les crypto-monnaies? Quel est-il?
Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas fait. Parce qu'on a souvent ce débat,
S'il
on
vient,
sent.
on lui demandera.
Ouais, on s'engueule souvent à ce sujet-là. Féfé, c'est comme mon frère, hein. On se connaît depuis très très longtemps, donc on peut très bien prendre un sujet technologie informatique, pas être d'accord dessus, et puis s'engueuler toute la soirée à ce sujet, hein. Puis après se dire, bon, bah allez, hop, c'est bon, on passe à autre chose. Mais alors, le problème, c'est que le sujet de la crypto-monnaie, c'est un sujet qui est extrêmement large. Je pense que là, la personne qui débarque en 2022 et qui se dit, moi, je vais investir dans la crypto-monnaie, je vais devenir millionnaire, je pense que déjà, il n'a pas compris, il ne sait pas encore de quoi il parle. Parce que c'est tellement vaste que c'est compliqué. Moi, c'est vraiment un avis très, très personnel, hein, mais je pense que essayer de prédire, l'avenir des courbes, je pense que c'est une connerie. Et d'ailleurs, on avait fait une vidéo dessus, hein, il y a un mec qui s'est amusé à modifier la cage de son hamster et pour faire en sorte que, en fait, il a fait un espèce de petit bureau de trading crypto pour son hamster. Quand le hamster passe dans tel tube, ça va acheter de la crypto. Quand il passe dans tel tube, ça va revendre la crypto. Quand il fait tourner sa roue, ça choisit des altcoins. Et en gros, le hamster, il passe sa journée à acheter, vendre, voilà. Et il s'est retrouvé dans le positif, dans une période où à peu près tous les investisseurs crypto avaient pris une claque, en fait. Voilà, donc l'idée derrière ça, c'était de démontrer qu'il y a quand même un côté extrêmement aléatoire dans la crypto-monnaie et qu'essayer de prédire les choses, bah voilà, c'est quand même un petit peu délicat. Après, quelqu'un qui est très renseigné, il y a par exemple un nouveau token qui sort, il sait qu'il y a une grosse hype autour, il va être capable d'acheter au bon moment et de revendre au bon moment, etc. Ça, j'ai envie de dire. Pourquoi pas, quoi, hein. Moi, j'ai encore des petits investissements qui tournent, j'ai encore des robots de crypto qui tournent, malgré le fait que je suis assez sceptique à ce sujet. Mais voilà, en tout cas, l'époque où on achète de la crypto, on devient millionnaire, non, clairement, ça va plus se passer comme ça. C'est plus possible. Je sais pas si j'ai bien répondu à ce sujet-là, mais.
Question de Mathéo, est-ce que vous avez déjà eu des demandes de partenariat pour votre chaîne TikTok?
Ouais, on a eu quelques demandes de partenariat. Alors, je vous cache pas que généralement, on donne pas vraiment suite. On a fait qu'un seul partenariat avec BenQ Technology qui nous ont envoyé des petites bricoles sympas pour qu'on les présente. Et en fait, ça tombait bien parce que c'était corrélé au moment où Féfé devait monter une nouvelle setup. Donc du coup, on s'est dit, bah c'est cool, ça fait deux trois trucs en plus pour la setup et du coup on peut inclure ça dans les vidéos. Mais voilà, quand on est sur des sujets qui sont complètement à côté de ce qu'on présente, on préfère pas le faire en fait. C'est pas forcément l'optique ou l'objectif de la chaîne. De toute façon, on gagne notre vie à côté, on travaille beaucoup à côté, donc on cherche pas forcément à rentabiliser financièrement cette chaîne TikTok. Je pense que ça, éventuellement, ce sera une conséquence dans le futur si on arrive à aboutir, ouais, si on fait nos projets, etc. Là, on en a encore eu, en plus, on en a toutes les semaines, hein, des messages de marques, de machin qui nous proposent des trucs. Ouais, quand c'est intéressant, quand c'est corrélé, quand on peut parler d'informatique, si ça arrive, on le fera. Si vraiment c'est à côté, on le fera pas. En plus de ça, on est sur des formats qui sont assez précis. En fait, on s'est rendu compte que quand on essaie de sortir de notre ligne éditoriale, on a 20-30 fois moins de vues en fait. Donc voilà, il faudrait pouvoir présenter ça en restant dans notre ligne éditoriale pour que ça puisse fonctionner correctement, quoi.
Question de Prali. Dans le monde de l'entreprise, elle a cru comprendre qu'il y a un besoin réel de compétences dans le cyber. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment besoin de continuer ses études en informatique jusqu'au bac plus 5, alors que le besoin est immédiat en fait, et qu'il y a un manque de main-d'œuvre?
Bah en fait, ça va dépendre de ce qu'on veut faire, je pense. C'est surtout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de petites startups qui ont besoin de gens qui sont bah, un petit peu dans notre délire, qui sont un petit peu généralistes dans l'informatique et qui ont besoin voilà, d'automatiser certaines tâches. En fait, on est beaucoup dans une période où on parle d'automatisation. Moi, ça m'arrivait plein de fois hein, de voir des potes qui ont des startups, qui ont des entreprises, de les regarder travailler sur certains trucs et de me dire, mais arrête ça, tu peux l'automatiser. Tu peux faire un programme qui fait ça, qui va chercher ça. Ouais, on peut automatiser ce process. Et je pense qu'il doit y avoir pas mal de demandes à ce niveau-là. Et je pense même qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne se rendent pas compte que techniquement c'est possible. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ouais.
Ouais, mais t'as envie de remettre des gens au chômage là, c'est pas possible.
Bah, en fait, vous voyez, c'est un petit peu comme. Ça c'est. C'est un petit peu l'exemple des caisses automatiques de Leclerc, vous voyez. C'est qu'on se dit, ouais, mais s'il y a des caisses automatiques, du coup, ça met des gens au chômage. Oui, mais derrière, il y a des équipes entières qui développent ces systèmes-là, qui créent ces systèmes-là, qui les entretiennent, qui les optimisent, qui les rendent de plus en plus performants. Donc, je pense que le métier se déplace, en fait, le travail se déplace. Maintenant, on va être très objectif. Moi, si demain, j'ai une entreprise et que j'ai le choix entre prendre 10 salariés pour faire une tâche, ou si j'ai le choix de coder un programme qui peut faire ça rapidement, automatiquement et sans jamais se tromper, ce serait mentir que de dire que ce n'est pas la décision que je prendrais. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de chefs d'entreprise qui raisonneraient un petit peu de cette manière-là. On ne peut pas avoir la compétence de coder ou de faire des choses. Et puis se dire, ah ben non, je vais pas le faire parce que peut-être que ça pourrait mettre des gens au chômage. Je veux pas être au chômage, moi.
Question de Trinity, une très bonne question je trouve en plus. En montrant que les réussites, n'as-tu pas peur d'inspirer des gens qui ne sont pas prêts à l'échec et la dure réalité du code?
Ah.
Le fameux syndrome de l'imposteur.
Ouais. Oui, c'est vrai. Et puis ça nous est arrivé tellement de fois avec Féfé d'avoir un projet, d'avoir une idée, de la développer, d'y passer grave de temps. Et puis en fait, on se retrouve à un moment donné confronté à ce qu'on appelle un grand filtre, un truc qu'on n'avait pas forcément prévu, qu'on n'avait pas anticipé. Et bam, en fait, on se dit merde, bah c'est pas possible. Pour vous donner une idée, le En fait, on a vite compris qu'il y avait un besoin pour beaucoup d'établissements. Quand j'ai établissement, ça va être peu importe que ce soit les coiffeurs, les bars, les restaurants, les boîtes de nuit. Il y avait un besoin d'acquisition et de développement de leur communication le plus automatiquement possible, en fait. Donc très rapidement, il y a quelques années, on a commencé à développer des social walls. Alors à l'époque avec Facebook, parce que c'était Facebook à l'époque, simplement. Là, on a déplacé tout ça. Et en fait, on s'est vite retrouvé confronté enfin pas vite, on a développé plein de choses et puis rapidement, on s'est confronté à des problèmes qu'on pouvait pas résoudre en fait. Donc du coup, bah, il y a tellement de choses comme ça qu'on a commencé puis qu'on a dû abandonner parce qu'en fait, ça nécessitait beaucoup plus de temps que prévu ou en fait, on s'est rendu compte qu'on répondait pas forcément correctement à la demande. Mais tout ça, après, c'est de l'expérience. De toute façon, vaut mieux coder des trucs et faire des choses inutilement et progresser plutôt que de rien faire du tout. Parce que maintenant, quand on monte des projets, on réfléchit plus dans le même ordre, on réfléchit plus dans le même sens. D'abord, on va vraiment lister tous nos grands filtres, tout ce qui pourrait nous poser problème. Et quand on en anticipe pas, on arrête tout, on va essayer de le résoudre. Comme ça, voilà, on perd pas de temps. Et je pense que c'est pour ça que maintenant, on arrive de plus en plus vite à atteindre nos objectifs dans ce concret, quoi.
Question de Prince de Lu. Sur TikTok, un public majoritairement néophyte et jeune, vous pensez parler davantage de la cybersécurité dangereuse ou de la cybersécurité sur les réseaux sociaux? Mais arrêtez avec le chat. Cyberharcèlement chez les jeunes à l'école. Je recommande la question parce que du coup, ça m'a un peu interrompu. Du coup, est-ce que avec un public majoritairement néophyte et jeune, vous pensez parler plutôt cybersécurité dangereuse ou cybersécurité via les réseaux sociaux en matière de cyberharcèlement, par exemple? Est-ce que c'est des sujets que vous abordez en fait déjà, le cyberharcèlement?
Alors, c'est des sujets que, c'est vrai, pour le moment, on n'a pas forcément abordé, simplement parce que c'est pas des sujets techniques, en fait. Et nous, c'est vrai qu'on est plutôt dans quelque chose de technique, mais c'est vrai qu'on a une communauté qui est assez jeune. Et en fait, de manière plus générale, y a un sujet qu'on a déjà abordé sur TikTok, mais très peu, parce qu'au final, c'est pareil, ça sort un petit peu de notre ligne éditoriale. Mais au-delà de ça, nous, il y a un sujet qui nous tient vraiment à cœur, c'est vraiment le scepticisme, en fait. Et la manière avec laquelle se comportent les... Mais finalement, ça reste de l'algorithmique et ça peut rester dans notre sujet, mais comment se comportent les réseaux sociaux pour traiter l'information? Comment est-ce qu'on se retrouve à lire certaines informations et pas d'autres? Comment des fois on peut se retrouver dans des bulles d'informations et donc développer tout un tas de croyances? On a vu énormément ça pendant le Covid, clairement. Hein, il y avait toujours plusieurs teams différentes sur ce qu'on pouvait croire, sur la différence entre de la connaissance et de la croyance, ce qui tient plutôt du dogme ou ce qui tient vraiment de la connaissance scientifique. Et en fait, ça nous tient vachement à cœur parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'objectif des réseaux sociaux, c'est pas rendu compte nous, c'est évidemment, il y a des gens qui ont très bien fait le travail là-dessus, mais voilà, l'objectif des réseaux sociaux, c'est pas de nous informer, c'est de faire en sorte qu'on reste le plus longtemps possible sur leur plateforme de toute façon. Et ils sont prêts à tout pour ça, c'est-à-dire que si on est dans un dogme, si on est dans une croyance, on sait que essayer de contredire cette croyance-là, ça demande une énergie mentale qui sera parfois trop forte pour certaines personnes et qui potentiellement pourrait les amener à quitter certains réseaux. Alors là, je parle beaucoup de Facebook et de Twitter principalement. Et je pense que si tout le monde avait conscience de ça et de comment fonctionne un réseau social et de différentes méthodes d'ailleurs utilisées que ce soit par les gouvernements ou par l'opposition, ce qu'on va appeler l'astroturfing, vous savez, l'idée de créer des milliers de comptes Twitter, par exemple, pour essayer de diffuser en masse une information et de la faire remonter à la surface, ou la manière avec laquelle fonctionnent, par exemple, certains sites orientés complotisme. Quels sont leurs objectifs, en fait? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des objectifs financiers ou est-ce qu'il n'y a pas derrière de la stimulation d'ego, derrière ces personnes-là? Et en fait, on se rend compte qu'on a un petit peu perdu l'esprit critique autour de tout ça. Et je pense que c'est aussi un manque de connaissance du fonctionnement des réseaux sociaux et justement des algorithmes derrière ça. Donc, on aimerait bien pouvoir aborder ces sujets-là. Mais on a essayé. Moi, j'ai essayé de faire une vidéo. C'est vrai qu'elle n'a pas forcément pris plus que ça. J'ai dû faire 25 000 vues, un truc comme ça. Donc, voilà, on sent que c'est pas... On sent que les gens, ils ne viennent pas nous voir pour ça, quoi.
Alors, plusieurs questions dans la question. Dans l'automatisation, dans la santé et l'usage des algorithmes dans la santé, est-ce que tu as un avis sur le vaccin obligatoire ou la perte de traitement individualisé, concrètement, genre Doctolib? Est-ce que c'est un sujet pour toi, la cyber et la santé, quid de l'identité numérique?
Alors, c'est intéressant parce que, en fait, mon métier à côté, je suis thérapeute. Donc, j'utilise Doctolib. Hein, si vous voulez, ils me font gagner beaucoup de temps, mine de rien. Honnêtement, j'ai pas un avis complètement arrêté là-dessus, parce que pour moi, la base même du scepticisme, c'est la suspension du jugement. Voilà, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas au bout de quelque chose, on suspend son jugement. On peut avoir certaines idées, on peut avoir l'idée de comment ça va tourner. Et typiquement, là, pareil, je ne parle pas au nom de tout Genepix, je parle vraiment en mon nom, parce que je sais que Féfé, il ne sera pas forcément complètement d'accord. Ça fait partie d'ailleurs des débats qu'on peut avoir, mais moi, j'ai plutôt une tendance techno-optimiste. Je pense qu'effectivement, la technologie, elle permettra d'accomplir plus de belles choses que l'inverse. Après, c'est vrai que tout ce qui touche à l'identité numérique, etc., moi, je suis plus d'avis que si si on comprend tout ça, si on comprend vraiment comment ça fonctionne, ben on est capable après de mettre, de placer nos propres limites. Moi, personnellement, je pense que je comprends à peu près bien comment fonctionne Google en termes de traçage, dans leur capacité à filtrer les données, à les récupérer, etc. Simplement parce qu'en plus, on a souvent utilisé le Google Pixel ou même le Facebook Pixel, même le Snapchat Pixel pour différentes plateformes, différents sites pour optimiser la communication. Donc on sait comment ça fonctionne tout ça. Je me sens pas menacé par ça, personnellement. Mais je pense que je me sens pas menacé par ça parce que je comprends comment ça fonctionne. Si demain j'ai envie de faire quelque chose sur Internet et faire en sorte de ne pas être tracé du tout, je pense que j'ai les capacités pour. Et c'est peut-être pour ça que ça m'inquiète pas. Je comprends que quelqu'un qui est complètement novice dans ce domaine-là et qui comprend juste que Google le trace, mais sans forcément comprendre pourquoi, je comprends que ça puisse l'inquiéter, ouais.
Mais du coup, pour développer un peu sur ce point,
Ouais.
est-ce que tu penses pas que toi, en tant que personne qui sait exactement comment ça fonctionne, comment t'en protéger, et qui a conscience en fait que finalement t'appartiens à une très faible minorité par rapport à la population générale, est-ce que justement tu devrais pas avoir cette idée de refuser ça parce que tu sais que le reste de la population ne pourra pas en fait être à ton niveau, autant alerte, etc.
Alors,
Et
oui.
n'aura pas une aussi bonne maîtrise de de leurs données personnelles et privées, notamment données de santé ou autres, hein.
C'est vrai. Alors, typiquement, pour ce qui touche aux données de santé, moi, j'ai particulièrement confiance en les statistiques. Et c'est vrai que si à un moment donné, on est capable d'établir tout un tas de corrélations, par exemple, avec les dossiers de santé de plusieurs centaines de millions de personnes, voire plusieurs milliards de personnes, je pense que ça pourra amener à beaucoup de choses qui peuvent être vraiment très intéressantes. Le problème dans tout ça, évidemment, bah, ça va être l'argent, quoi. Ça va être à qui c'est revendu, est-ce que c'est revendu. Donc, je pense que le problème, c'est pas tellement la technologie qui permet de faire ça va être plutôt la manière avec laquelle potentiellement ça peut être fait. Mais c'est vrai que on parle par exemple de Google ou de toutes ces grosses multinationales qui potentiellement nous tracent. Disons que nous, ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser. Si demain, je fais un site internet pour une entreprise, je vais lui expliquer bah, qu'on peut utiliser ce système-là pour cibler les pubs. Voyez? Donc, du coup, disons que j'ai plus tendance à l'utiliser. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez d'Internet il y a 15 ans, on en avait des pubs. On en avait sûrement même encore plus, sauf qu'elles n'étaient pas ciblées. Vous savez, moi, des fois, je fais un truc. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui le font, mais quand je veux acheter, par exemple, une nouvelle paire de chaussures et que je n'ai pas le temps, eh ben, je fais une recherche sur Google, paire de chaussures grande taille, alors chose du 49, si vous voulez, donc c'est très compliqué pour moi. Je fais la recherche, je vais sur un site, je ferme la page, et puis je vais au boulot, je fais mes trucs, machin. Et là, pendant quelques heures ou quelques jours, eh ben, sur les réseaux, sur les plateformes, eh ben, je vais avoir des pubs de chaussures. Et de temps en temps, je clique et je regarde. Alors, est-ce qu'il vaut mieux avoir de la pub? Parce que quoi qu'il arrive, on aura de la pub. Un site internet, il a besoin de gagner sa vie. Donc, il va mettre des pubs en place. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des pubs ciblées, des trucs qu'on cherche, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des vieilles pubs qui intéressent personne, qui ne seront pas ciblées, sur lesquelles personne cliquera? Pour moi, c'est plus une forme d'optimisation, tout ça. Il n'y a pas un humain derrière qui se dit, oh bah là là, je vois que Jean-Claude, il est allé acheter une paire de chaussures. Non, non, c'est des robots derrière qui vont analyser une partie de notre comportement et qui, du coup, vont essayer de cibler au maximum nos envies et nos besoins, quoi. Donc, je comprends que ça puisse inquiéter quand on comprend pas le fonctionnement, quand on ne connaît pas bien le fonctionnement de tout ça. Moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur.
Est-ce qu'il y a de nouvelles questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais aborder en fait avec nous sinon au-delà de ça?
Alors j'étais plus dans le chat, je regarde un petit peu les messages. Trinity qui dit le hacking dans la guerre, c'est des vies militaires sauvegardées ou des administrations civiles et des hôpitaux touchés en plus. Bah ouais, typiquement, on a fait une vidéo là-dessus, là, sur TikTok. C'est vrai que maintenant, on a la possibilité d'observer une partie des attaques qui se passent dans le monde, enfin, des attaques, des cyberattaques, simplement parce que ben, un antivirus, il va récolter des données, il va récolter des attaques. Quand vous envoyez un virus sur un ordinateur et que l'antivirus le détecte, l'information qui a une détection, elle est renvoyée à l'antivirus et derrière, ils sont capables de mapper ces attaques. Donc, il y a des cartes du monde où on voit les attaques en direct, les types d'attaques, les types de virus, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est vachement intéressant et je pense qu'il y a eu, effectivement, bah, c'est pas nouveau, quoi, mais il y a une grosse guerre un peu invisible, on la voit pas forcément, cette guerre-là, mais oui, ouais, il se passe plein de choses.
Question de BBDB. Quid des limites sur les projets européens comme le Gérontopole de Toulouse? Par contre, le Gérontopole de Toulouse.
Gérontopole?
Je dois t'avouer que je connais pas du tout.
Moi non plus.
Contextualise, on reposera la question du coup.
Ouais, ça marche. Alors je regarde en même temps le Gérontopole. Rassemble les acteurs ligériens du bienveillard pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées en Pays de Loire. Oh, alors là, je connais pas du tout le sujet. Ah oui, ça parlait de GPT-4. Ouais, Caribou 84 qui parlait de GPT-4. Alors pour l'anecdote, bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent un petit peu cette anecdote-là, mais il y a un mec qui s'est amusé sur un forum de Reddit à connecter GPT-4 pour lui faire parler de philosophie. Et je crois que le sujet qui était abordé dans ce topic-là, c'était la vie après la mort, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, GPT-4 avait la capacité de poser des argumentations, thèse, antithèse, synthèse, philosophique, de répondre à des humains, passer complètement le fameux test de Turing, en fait. Hein. Et du coup, ouais, ils se sont rendus compte que c'était un robot qui répondait, parce que juste, il répondait beaucoup trop rapidement. Donc, c'est quand même incroyable. Je pense qu'on en est à un stade, là, de la technologie. Vous imaginez, là, on est en 2022, on n'a plus besoin d'avoir fait 9-10 ans d'études pour utiliser de l'intelligence artificielle, pour utiliser de la puissance de calcul. Il y a plein de solutions pour ça. Moi, je pense que... Alors, on n'a pas idée de ce qui va se passer dans 10 ans, 15 ans, 20 ans en informatique. Là, déjà, on arrive à fabriquer des choses, à faire des choses. Il y a quelques années, c'était juste impossible. Je pense, par exemple, ne serait-ce qu'à Raspberry. Ça me fait un peu penser à ça, parce que voilà, c'est vraiment l'idée de donner accès à n'importe qui. Enfin, n'importe qui peut avoir accès à certains outils, certaines technologies pour fabriquer un peu tout et n'importe quoi. Avec un Raspberry, on peut fabriquer tellement de choses. C'est juste de la créativité, c'est juste de l'imagination. Là, c'est un truc qui me passionne complètement, quoi.
Moi, j'ai une question, c'était plutôt technique. Sur vos projets, vous utilisez plutôt quoi comme technologie?
Alors,
que vous avez
des
préférences ou c'est selon le type de projet que vous voulez faire?
Alors, ça va être vachement fonction du type de projet. Après, c'est vrai que si on a vraiment une préférence, nous, on est vachement dans l'automatisation, de toute façon, je pense que vous l'avez compris. Et c'est vrai que Python, c'est quand même vachement pratique pour ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de docs en Python, et il y a beaucoup, beaucoup d'API qui utilisent Python. Donc, du coup, ça... Moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Je pense que Fefe, c'est quelqu'un qui a quand même de beaucoup plus grosses compétences que moi sur l'aspect code. Donc, voilà, peut-être que lui, il apportera pas forcément la même réponse. Encore qu'il aime beaucoup le Python aussi. Hein, donc, donc, voilà.
Est-ce que vous avez un repo?
Oui.
Un endroit où
ouais,
il y a
ouais.
Le code.
Ouais, code ouais, ouais. On en a un. Ce qu'on met, c'est assez pédagogique en général. On n'a pas mis. Là par exemple, ouais, après, on fait un petit peu attention. Typiquement, là, le social wall qu'on code, on ne l'a pas encore push, on ne l'a pas encore publié. Parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on va en faire. On ne sait pas encore si on en fait un outil commercial ou. Voilà, il y a aussi forcément certaines questions qui se posent quand on monte des choses comme ça. Merci Zilot pour le repo GitHub. Mais par exemple, voilà, dans un contexte éducatif, on a parlé sur TikTok des métadonnées des images. On a montré que par exemple, avec une image d'un smartphone, on pouvait retrouver la géolocalisation exacte de où a été prise la photo. Donc on a codé un petit bout de script en Python, c'est très simple, hein, c'est très très basique, mais un petit bout de script en Python qui vient extraire les métadonnées d'une photo et qui vient trouver la position GPS de l'endroit où a été prise la photo. On a pas mal de petits programmes comme ça, on s'était amusé à coder un petit ni oui ni non, un petit ni oui ni non Python qui nous parle. Ouais, on a plein de petites bricoles, quoi, si vous voulez. Donc disons que ça va être utile à quelqu'un qui débute vraiment le code et qui a envie d'avoir quelques petits exemples un peu marrants. Je pense que c'est toujours plus marrant d'apprendre à utiliser le code avec des trucs un petit peu originaux comme ça, plutôt que des fois avec certains exemples un peu basiques qu'on peut avoir dans certaines formations, quoi.
Question de Trinity. Niveau sécurité, j'ai l'impression que les antivirus sont de moins en moins populaires. Est-ce que vous avez une pensée sur ça ou...
Ouais, moi, enfin, je devrais pas le dire publiquement, mais ça, j'ai plus vraiment d'antivirus. Quand j'ai vraiment un doute, soit je fais un scan en ligne, soit je l'installe, je l'utilise, je le désinstalle, parce qu'en plus, je sens que ma config, elle commence à être un chouille obsolète, donc du coup, j'ai pas envie d'avoir des trucs en fond qui me bouffent, qui me bouffe de la puissance de calcul sur mon ordi. Et c'est vrai que je suis assez d'accord. Moi, je pense que les systèmes d'exploitation, ils font quand même pas mal le taf. Et au final, voilà, pour ceux qui se sont déjà amusés à essayer de coder des petits malwares, des petites choses, en fait, on se rend compte que bien souvent, l'antivirus, c'est pas le plus gros problème à bypass. Donc, voilà, c'est... Bon, après, évidemment, ça va dépendre des contextes et des situations, mais quand on a de bonnes informations enfin, je prends l'exemple vraiment d'un pirate, hein, d'un hacker qui cible quelqu'un, s'il arrive à avoir connaissance de l'antivirus, il pourra trouver des solutions pour bypass cet antivirus en particulier, quoi. C'est, vous savez, ce qu'on appelle souvent ce qu'on va chercher à faire, sur des petits trojans, des petits rats comme ça, c'est ce qu'on appelle du FUD, du Full Undetectable. Mais en fait, bien souvent, le UD, juste Undetectable, ça suffit, quoi. Je sais que tu as Avast, et ben je vais essayer de faire une signature qu'Avast ne sera pas capable de détecter. Voilà. Mais c'est que maintenant, avec le smart screen, etc., ça fait quand même relativement bien le taf, quoi. Alors, je sais pas si Coder White Hat sera d'accord avec moi. Je pense que c'est un sujet qu'il maîtrise pas mal du tout.
Du coup, je vais te poser une question un peu plus sur le contenu de votre chaîne.
Yes.
Est-ce que vous avez pensé à faire des trucs un peu plus, alors toujours en informatique, mais plus sur l'aspect peut-être historique ou philosophique, sur les questions de licence, le logiciel libre, open source,
alors, certains concepts. On l'a fait un petit peu. On l'a fait un petit peu. On a fait des présentations des plus grands hackers de l'histoire. On a fait des petites vidéos sur l'origine de Linux pour fêter, je crois que c'était les 30 ans de Linux, hein, il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. On a fait une petite vidéo à ce sujet-là. Donc, disons qu'on le fait quand ça nous tient à cœur, quand c'est un sujet qu'on aime bien, qu'on connaît déjà un petit peu, on va dire. L'open source, par exemple, voilà, forcément que quand on parle de Linux, on vient à parler un petit peu de l'open source, de son utilité, de pourquoi c'est clairement quelque chose qui a permis d'amener l'informatique à un autre level, quoi. Open source power. Grave.
Grave. Vive la GPL. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un a encore des questions?
Maintenant, alors c'est vrai que Open Source Power, juste pour rebondir là-dessus, c'est absolument vrai. Maintenant, c'est vrai que faut aussi comprendre que les informaticiens, ils vont avoir besoin de gagner leur vie. Donc l'open source, c'est un petit peu ses limites en termes de temps. C'est des choses qu'on peut se permettre de faire sur des projets perso. Même nous, on a pu faire. Mais c'est vrai que voilà, c'est faut bien savoir sur quoi on le fait, quand on le fait, sur quel projet on le fait. Tout mettre en open source, forcément que c'est un petit peu délicat aussi quand faut pouvoir payer ses factures à la fin du mois, quoi, d'une certaine manière.
Question, quid des RGPD, donc en général, j'imagine toutes les lois qui pourraient réguler. Et aussi question du coup, est-ce qu'on va vers un internet sous contrôle? Question de Caribou.
Ah. Et bah en fait, bon, c'est vrai que j'apporterais un petit peu la même réponse que quand on parlait des grosses entreprises, des grosses multinationales qui nous surveillent. Je pense, moi j'ai toujours eu la sensation en informatique qu'il y avait toujours plus de solutions pour se cacher plutôt que de solutions pour nous retrouver en fait. Voilà. Ça, très, très simplement, on se rend compte que même dans les pays où il y a de fortes dictatures, au final, un VPN et puis Tor d'installer, et globalement, le problème est à peu près réglé. Et même à l'heure actuelle, retracer un nœud Tor, c'est monstrueusement compliqué. C'est pas des démarches qui seraient lancées de manière anodine pour n'importe qui. Je prends l'exemple. Du gars qui, par exemple, a suffisamment de connaissances pour acheter un petit peu de crypto-monnaie, pour, par exemple, je sais pas, s'acheter sa consommation de drogue sur le darknet. J'ai du mal à croire qu'on sortirait l'artillerie lourde pour retrouver un profil comme ça, par exemple. Voilà. Heureusement que pour certains sujets, très grave, très lourd, comme la pédophilie, comme ce genre de choses. Heureusement que là, voilà, on commence, je pense, à avoir les ressources pour. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a des solutions qui se mettent en place, ben, le monde de l'informatique, les hackers vont trouver des solutions pour contrer tout ça, quoi. Alors après, c'est vrai qu'il y a l'Internet, le clear web, l'aspect, voilà, l'Internet que tout le monde connaît, où là, effectivement, on risque de se retrouver de plus en plus sous contrôle. D'ailleurs, on se rend bien compte que c'est beaucoup plus compliqué d'être anonyme maintenant sur Internet qu'il y a 10, 15 ans, avec quelques petites méthodes, notamment les méthodes de Locint. D'ailleurs, dédicace à Coder White Hat, parce que c'est lui le premier à m'avoir parlé de Locint. Finalement, c'est des méthodes qu'on utilisait sans savoir qu'il y avait tout un réseau autour de ça, et que voilà, qu'il y avait un peu les limites là-dedans, quoi. Mais on se rend compte que retrouver quelqu'un, bah, c'est quand même plus très compliqué, quoi. On peut faire de la reconnaissance faciale, on peut faire tellement de choses folles.
Sur le RGPD, pour revenir dessus, Caribou, une précision, notamment sur la mise en conformité et les peines encourues.
Ah! Oh là là, alors là, c'est pour le coup, c'est vrai que c'est très juridique. Moi, j'ai jamais eu l'impression que c'était très rigide pour le moment, tout ça. Je pense que il va y avoir effectivement des grosses entreprises qui vont être un petit peu ciblées par ça. Mais je sais pas, je prends l'exemple du coiffeur du coin qui met en place une communication et qui, par exemple, va monter une petite méthode d'acquisition d'adresse mail, de nom, de prénom pour sa clientèle, etc. Imaginons que cette personne, elle oublie de déposer sa base de données à l'INSEE. J'ai vu beaucoup d'entreprises ne pas le faire et j'ai vu très peu d'entreprises avoir des problèmes à cause de ça, en fait. C'est un exemple parmi d'autres, hein.
Question de Trinity. Microsoft qui s'ouvre de plus en plus à l'open source pour les développeurs tout en faisant des acquisitions du côté de GitHub. Un open source de confiance pour l'interrogation?
Ouais, bah, je pense que l'open source, de toute façon, c'est un outil parmi d'autres, en fait. Je pense que c'est un outil parmi d'autres, et je pense qu'ils ont bien compris que mettre 200 codeurs, aussi excellents qu'ils soient, les mettre sur le même projet, bah, ça a pas forcément la même puissance et la même efficacité que si n'importe qui peut prendre part à un projet, peut le faire évoluer, peut le développer. Au final, c'est des choses qu'on voit, mine de rien, avec Android, par exemple, avec beaucoup de systèmes comme ça qui, à l'origine, sont quand même open source. Et du coup, voilà, ça permet simplement de faire évoluer la technologie. Donc, en fait, ce serait presque même une bêtise de ne pas le faire. Disons que s'ils ne le font pas, on leur reproche. S'ils le font, on leur reproche. Donc du coup, comment est-ce qu'ils doivent se placer là-dedans? Franchement, j'ai pas vraiment la réponse.
Du coup, question de l'ours. Quel candidat à la présidentielle, selon vous, a les meilleurs projets en matière d'informatique et souveraineté numérique?
Oh là là.
Est-ce que vous avez regardé cette question déjà?
Non,
vous avez
très
creusé les
très
programmes.
très peu, mais moi en fait je pense que je suis un petit peu fataliste. Enfin pas plutôt non, pas fataliste, c'est pas le terme, parce que je l'ai dit, je suis plutôt optimiste, je suis plus un petit peu dans l'idée du on va se démerder avec ce qui se passe. Et voilà, c'est je suis un petit peu plus dans cet esprit-là. S'il y a quelque chose qui me convient pas, bah, je trouverai une méthode pour faire autrement. Et en fait, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai amené tout mon parcours professionnel depuis que j'ai quitté le lycée, quoi. Il y a quelque chose qui me convient pas de cette manière-là, et bah, moi, je vais le faire différemment et je vais le faire à côté. Donc, voilà, du coup, c'est vrai que pour ça que je me suis pas plus renseigné que ça à ce sujet-là. Honnêtement, j'ai du mal à croire pour le moment, que les présidentielles vont vraiment apporter des différences significatives sur la manière avec laquelle ça se passe pour le moment. Je pense que c'est des, je pense que ça fait partie des sujets qui sont encore un petit peu deep, un petit peu dans les tiroirs parce que bah c'est technique, c'est compliqué, que tout le monde se sent pas concerné. Et bah mine de rien, en politique, eux ils ont plutôt tout intérêt pour le moment à faire en sorte qu'on s'intéresse à des sujets qui sont visibles. Qui ont l'air vraiment concrets pour les gens. Pour nous, c'est du concret parce qu'on est dedans. Mais pour la plupart des gens, j'ai du mal à croire qu'un politicien va optimiser ses sondages grâce à ce genre de sujet. Pour le moment, j'en ai pas vraiment l'impression, en fait. Après, peut-être que je me plante, hein. D'ailleurs, dites-moi, hein, si vous pensez que je me plante, ça peut être intéressant d'en débattre aussi, hein.
Oh non, je pense pas que tu te plantes. Je pense que c'est un sujet qui est très peu connu et incompris.
Ouais.
Et ils s'en saisissent pas, je pense, les tenants, les aboutissants et pourquoi ça serait une bonne chose.
Ben, je
Et on va
pense. Et
pas parler
d'ailleurs,
de
c'est.
démocratie plus que ça, mais.
Vous savez, on dit souvent que finalement, tout ça, c'est un éternel. Enfin, que tous ces sujets, c'est un éternel recommencement. Rappelez-vous, il y a 15 ans, quand on s'est confronté à la dématérialisation de la musique, quand on téléchargeait nos musiques sur Emule à l'époque avec du 56K et que ça mettait 2 jours pour télécharger un MP3 de CMO. C'était un peu l'angoisse. Bah, au final, l'industrie du disque, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu contrer ce système-là. Ils ont tout fait pour le contrer. Ils ont inventé n'importe quoi. Ils ont inventé les mini-disques, ils ont acheté un truc. Au final, ils n'ont pas réussi. Ils ont été obligés de s'adapter. Ils ont été obligés de rentrer dans la dématérialisation. Il y a toutes les grosses plateformes qui sont sorties, Napster, un peu plus tard Spotify, etc. Du coup, en fait, ils sont obligés de s'adapter à l'évolution de l'informatique. Et typiquement, moi, j'ai l'impression que là, on se retrouve exactement dans le même contexte avec tout le système financier, avec tout le système bancaire. Là, actuellement, il y a le principe de blockchain, la crypto-monnaie, la décentralisation de la monnaie. Actuellement, ils essaient de contrer ça, ils essaient de l'empêcher, mais en fait, ils pourront plus. C'est déjà lancé, c'est déjà trop efficace, c'est pas encore stable, pas sur tous les. Pas sur tous les plans en tout cas, mais on peut absolument pas imaginer que c'est quelque chose qui va disparaître comme c'est arrivé. C'est une nouvelle technologie, enfin c'est une technologie qui est extrêmement puissante. Il va falloir s'adapter, quoi. Yo Napster. J'ai pas entendu de politique parler de ce domaine-là, en tout cas de manière anecdotique. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que de toute façon, honnêtement, la politique, c'est vraiment pas un domaine que je connais. Et voilà, je pense que on est vraiment dans un monde où il faut de plus en plus faire attention à quand on maîtrise pas un domaine, on peut vite se retrouver dans des biais, vous savez, les biais de Dunning-Kruger. C'est le biais qui consiste à dire que quand on a lu un ou deux bouquins sur un sujet, on a l'impression d'avoir plus de connaissances que les spécialistes. Donc je suis pas assez calé en politique. C'est moi personnellement quelque chose qui me parle pas sur le plan, on va dire, de la manière avec laquelle les politiciens communiquent avec nous. Donc voilà, c'est pour ça que j'aurais du mal à en dire beaucoup plus sur la politique. Mais c'est vrai que l'informatique, ça fait pas partie des programmes, quoi.
Du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet.
Yes?
Est-ce que tu as des sujets, je pense, que tu voudrais aborder ou quoi? Des trucs qu'on n'aurait pas parlé
Écoute, non. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes là qui nous écoutent. Je pense que là, les personnes qui nous écoutent, c'est déjà des gens qui ont roulé un petit peu leur boss, qui sont un petit peu matures sur tous ces sujets-là, mais c'est vrai que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui s'intéressent au hacking, qui s'intéressent à l'informatique, attention à pas faire de conneries, parce que vraiment on peut le payer un peu bêtement et on peut vite se retrouver à être bloqué. Voilà, moi, franchement, je suis passé à travers les mailles du filet pas mal de fois. Il y a pas mal de choses que je ne referais pas de la même manière. Maintenant, il y a des plateformes qui permettent d'apprendre à apprendre. Déjà, on parlait de Routemi tout à l'heure. Voilà, quelqu'un qui est passionné par le hacking, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tous les outils pour apprendre en toute sécurité, sans rien casser, sans se mettre en danger. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Et puis voilà, de toute façon, s'il y a des questions, on est aussi disponible sur Discord. Il y a plein de gens super sur le Discord qui connaissent très bien tous ces sujets-là, notamment nos modos, donc n'hésitez pas.
Est-ce que tu as des livres à recommander?
Ah là là, alors, moi,
Trois livres.
je suis plus dans les bouquins techniques. Mis à part, alors évidemment, les deux livres de Kevin Mitnick, L'art de l'intrusion et L'art de la supercherie. Alors, L'art de l'intrusion, c'est un livre où pendant que Kevin Mitnick était en prison, il a regroupé un petit peu toutes les histoires les plus incroyables de différents hackers américains qui souvent ne se sont pas fait attraper en fait. Hein, mais je donne un exemple, il raconte l'histoire d'un mec qui a compris qu'en fait il était capable de reverser le mécanisme des premières machines à sous, parce qu'à l'époque, voilà, il n'y avait pas 50 000 entreprises qui faisaient des machines à sous, il y en avait une. Et du coup, il a pu reverser la puce électronique de la machine à sous et donc coder un petit programme pour comprendre un petit peu le random qu'il y avait derrière et donc optimiser ses chances de gagner le gros lot. Et le mec a fait le tour des US en gagnant sur toutes les machines à sous américaines. Il est devenu extrêmement riche comme ça. Personne l'a jamais su parce que bah voilà, c'était une autre époque. Mais par contre, après, voilà, il a raconté cette histoire à Kevin Mitnick. Il en parle dans ce bouquin. Il y a plein plein d'autres exemples. Hein. C'est plein de petites histoires de hackers qui se sont jamais fait attraper, mais qui ont des choses incroyables à raconter. Et puis l'art de la supercherie, bah, c'est plus axé social engineering. En gros, pourquoi l'ingénierie sociale, c'est un outil qui est extrêmement dangereux. De plus en plus, d'ailleurs, j'ai l'impression. Pourquoi les entreprises, des fois, se protègent pas correctement. Bon, il y a des entreprises qui vont pouvoir tout mettre en place sur un plan de sécurité informatique, mais qui, par contre, vont laisser traîner certaines informations à des personnes qui peut-être ne devraient pas les avoir, et donc potentiellement un hacker peut récupérer des informations, on peut faire même de l'espionnage industriel en utilisant des méthodes de social engineering sans forcément avoir de grosses connaissances techniques en informatique. C'est aussi ça, du coup, hein, le hacking et le piratage. Donc voilà, si j'ai deux bouquins à recommander pour les passionnés, franchement, c'est ça.
Et du coup, un langage pour commencer à apprendre.
Ah, alors ça, c'est toujours la question. Un
La grande
langage?
question.
Ouais. Je pense que le langage, il dépend simplement de ce qu'on veut faire, en fait. Hein? Je pense qu'apprendre un langage pour apprendre un langage, ça marche pas. Il faut avoir des projets, il faut avoir une idée, il faut se dire, voilà, moi j'aimerais coder ça, ou j'aimerais avoir ça. Et à partir de là, on peut commencer à se poser la question de quel langage on apprend pour coder ça. C'est vrai que si on est vraiment dans quelqu'un qui, par exemple, veut apprendre à faire des sites web, on ne va pas lui dire d'apprendre le C++ ou d'apprendre le Python. On va lui dire d'apprendre le HTML, le CSS. Une fois qu'il comprend un petit peu tout ce fonctionnement de balisage, derrière, on va lui dire, bon, bah, maintenant, tu peux te mettre au JavaScript, tu peux te mettre au PHP. Tiens, tu as besoin d'une administration sur ton site, bah, il faut apprendre le PHP. Par contre, quelqu'un qui veut vraiment faire du logiciel, moi, je conseillerais quand même le Python, simplement parce que c'est facile, en fait. Là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont dire, il faut tout de suite se mettre dans le dur et il faut apprendre les langages bas niveau. Moi, je pense que c'est très compliqué et que du coup, ben, il vaut mieux commencer par quelque chose qui donnera assez rapidement des résultats. Et après, se confronter aux limites. Se dire, ah bah voilà, tiens, avec Python, tiens, la rapidité, ou tiens, il y a tel problème, ou tiens, je ne peux pas faire des exécutables. Et donc, derrière, voilà. Il faut savoir que à peu près tous les langages ont la même logique. Donc, si vous maîtrisez un langage, ce sera beaucoup plus facile, pardon, d'apprendre les suivants.
Merci d'être venu, d'être passé nous parler un peu de votre expérience.
Bah, merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli, surtout.
En espérant qu'il pourra venir peut-être plus tard si on continue la discussion.
Grave.
Je vais arrêter l'enregistrement et on peut continuer à discuter de façon un peu plus libre, on va dire,
Ouais, avec
de tout et
plaisir.
n'importe quoi si vous avez le temps. Merci.
Bah merci, merci à vous. C'est bien cool comme concept en tout cas.